When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Tout de suite, les titres de votre journal. Et à la une, il n'y aura jamais de droit au blocage dans les universités. Ce sont les mots du Premier ministre. Gabriel Attal dénonce les dérives de la manifestation pro-palestinienne de vendredi à Sciences Po Paris. Le Hamas publie une nouvelle vidéo montrant deux otages israéliens. Ils ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre dans le sud de l'État hébreu. Ils sont âgés de 64 et 47 ans. Le Forum des familles d'otages a confirmé leur identité. Un rassemblement évangélique très surveillé dans le Loiret. L'association Vie et Lumière, une mission évangélique des gens du voyage, organise donc un rassemblement d'une semaine sur un terrain vague. Et cette année, pour la première fois, l'État a instauré des règles face à une situation qualifiée d'ingérable par les habitants. 30 ans après le retour du loup en France, le sujet divise toujours. Sa population dépasse désormais le millier de bêtes. Elle a plus que doublé ces 5 dernières années. Un nouveau plan loup vient d'entrer en vigueur. Il n'y aura jamais de droit au blocage dans les universités. Ce sont donc les mots du Premier ministre Gabriel Attal. Il dénonce les dérives de la manifestation pro-palestinienne de vendredi à Sciences Po Paris. Thomas Bonnet, notre journaliste politique, a suivi le déplacement du Premier ministre. C'était à Pirou, dans la Manche.
Au lendemain du blocage de Sciences Po et des images qui ont choqué une partie de l'opinion, Gabriel Attal a répondu à la polémique, interrogé sur cette dérive qu'il avait lui-même pointée du doigt. Il a fait part de la vigilance de son gouvernement et dénoncé une nouvelle fois une idéologie venue d'outre-Atlantique. Écoutez.
J'ai eu l'occasion, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, de me rendre à Sciences Po devant le conseil d'administration pour dénoncer les dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer à la majorité des étudiants, aux enseignants, une idéologie venue d'outre-Atlantique, essayer de perturber le bon fonctionnement de cette école, qui est une école importante évidemment pour notre pays. Et je le dis, je l'ai dit à l'occasion et je le redis ici, nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi et sur le respect des valeurs de la République.
Pour le Premier ministre, il s'agit aussi de montrer que le dossier de Sciences Po est un dossier suivi de près à Matignon. Lui qui a été élève à Sciences Po, qui s'était même rendu sur place il y a quelques semaines après des incidents précédents. Il fait part de sa vigilance totale sur le sujet. Devant le conseil d'administration de Sciences Po, il y a quelques semaines, il avait parlé de dérives dangereuses en estimant que le poisson pourrit toujours par la tête.
Les États-Unis sont rattrapés à leur tour par les manifestations pro-palestiniennes. Une centaine de personnes ont été interpellées samedi matin. C'était dans une université de Boston. Les manifestants installent des tentes sur les campus universitaires pour dénoncer le soutien militaire des États-Unis à Israël et la situation humanitaire à Gaza. Les précisions de notre correspondante Elisabeth Guedel.
La situation se tend sur les campus américains alors que le mouvement de protestation se généralise dans le pays, avec ce dilemme pour les responsables d'université, soit de faire appel aux forces de l'ordre pour évacuer les manifestants et démonter les tentes et gérer ensuite l'arrestation d'étudiants et de professeurs venus les soutenir, ou bien négocier directement avec les étudiants pro-palestiniens pour qu'ils mettent fin à l'occupation des campus. Des centaines de manifestants ont été arrêtés depuis le début du mouvement. Ça a été encore le cas vendredi soir sur le campus de l'université Northeastern à Boston. Une centaine de personnes ont été arrêtées. Elles refusaient de quitter les lieux. Elles seront inculpées pour trouble à l'ordre public. La manifestation a été infiltrée par des organisateurs professionnels, estime la direction, pour justifier d'avoir demandé à la police d'intervenir. Et elle dénonce un appel à tuer les juifs entendu la veille dans la manifestation, ce que démentent les manifestants. Pour les universités qui ont choisi de négocier directement, comme ici à New York, à l'université Columbia où tout a commencé, eh bien les discussions sont dans l'impasse. Une crise qui est loin d'être terminée, avec la crainte qu'à tout moment, la situation dégénère, bascule dans la violence et devienne complètement incontrôlable.
Le Hamas publie une nouvelle vidéo montrant deux otages israéliens. Ils ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre dans le sud de l'État hébreu. Ils sont âgés de 64 et 47 ans. Le Forum des familles d'otages a confirmé leur identité. On fait le point avec Harold Diman.
Les otages, enlevés tous deux le 7 octobre, sont Keith Siegel, 64 ans, américano-israélien, et Omri Miran, 47 ans, israélien. Le Forum des familles d'otages a confirmé leur identité. Le groupe terroriste Hamas avait préalablement, le 24 avril, diffusé la vidéo d'un autre américano-israélien de 23 ans, Hersh Goldberg-Pauline. On ne voit pas qui est derrière la caméra, dans la salle. Il s'agit là de la scénarisation typique des groupes terroristes qui contraignent leurs captifs à faire des déclarations forcées. Dans cette manipulation du Hamas, un message émerge. Les otages sont obligés de dire qu'ils souhaitent que le gouvernement de Benjamin Netanyahou conclue un accord pour le retour de tous les otages avant la fête nationale israélienne le 14 mai. En effet, le Hamas est en très mauvaise posture militairement. Le gouvernement israélien a annoncé son intention de mener une opération majeure sur la localité de Rafah, dans la bande de Gaza, là où s'est retranché le Hamas avec des otages qu'il utiliserait comme bouclier humain. Rappelons que plus de 250 personnes ont été enlevées le 7 octobre et 129 restent captives à Gaza, dont 3 Français. 34 personnes sont mortes selon le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet.
Il voulait mourir en martyr pendant les Jeux Olympiques de Paris. L'adolescent de 16 ans a été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Sur les réseaux sociaux, il disait vouloir fabriquer une ceinture explosive. Il avait été interpellé mardi à la suite de ses déclarations. Un jeune homme de 23 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir frappé un brancardier aux urgences. Les faits se sont déroulés le 6 avril devant les urgences de Châlons, c'est en Vendée. Il a reconnu avoir frappé un brancardier car son père et son cousin, tous deux brûlés, n'étaient pas pris en charge assez vite à ses yeux. La reconstitution des faits de la mort de Naël est finalement maintenue. Elle est prévue le 5 mai prochain. Les deux juges d'instruction se veulent rassurants, notamment sur les conditions de sécurité. Le jeune de 17 ans est mort en juin 2023 après avoir été touché par le tir d'un policier. C'était lors d'un refus d'obtempérer. Et son décès, souvenez-vous, avait entraîné plusieurs nuits d'émeutes dans tout le pays. Les explications de Noémie Hardy et Noémie Schulz.
Une reconstitution au pied des tours de Nanterre serait une folie, estime l'avocate d'un des policiers, qui rappelle que les deux fonctionnaires de police ont reçu des centaines de menaces de mort depuis les faits. C'est la raison pour laquelle il a envoyé une demande de délocalisation de cette reconstitution au juge d'instruction en charge du dossier. En prenant l'exemple d'une autre affaire très sensible, impliquant elle aussi des policiers, celle de la mort de Cédric Chouviat. Les magistrats instructeurs avaient accepté de l'organiser dans un hangar, loin de la circulation très dense du Quai Branly. Mais dans l'enquête sur les circonstances de la mort de Naël, en juin 2023, les juges ont refusé cette délocalisation. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Tenter de comprendre si le policier, qui a toujours assuré être en état de légitime défense, risquait réellement de se faire percuter par la voiture de Naël. Cette reconstitution aura donc lieu dimanche prochain, le 5 mai à Nanterre, sous très haute sécurité. Les deux policiers redoutent cette étape cruciale de l'instruction. Eux et leurs avocats porteront des gilets pare-balles. L'auteur du coup de feu a même demandé à pouvoir garder un masque et une cagoule pendant toute la durée de la reconstitution.
La situation n'est plus tenable à la maison d'arrêt de Nantes. Dans une lettre ouverte aux gardes des Sceaux, les représentants syndicaux alertent concernant la surpopulation carcérale. Le cap des 200 matelas au sol a été franchi. Un reportage de Jean-Michel Decaze.
La prison de Nantes est décrite par les surveillants comme une véritable cocotte minute. 420 places pour 800 détenus. Malgré l'ajout de lits superposés, 200 personnes dorment sur des matelas par terre.
Les tensions sont vraiment très palpables, en plus sur fond de trafic également, comme on subit beaucoup de projections. Donc il y a de gros enjeux économiques à l'intérieur. Et les tensions et les bagarres entre détenus sont quasi quotidiennes.
FO Justice a envoyé une lettre ouverte à tous les policiers, y compris le président de la République, et à tous les tribunaux. À Nantes, par exemple, les déferments ont augmenté de 75% en deux ans, en partie du fait de la lutte contre le trafic de drogue. Le syndicat tire la sonnette d'alarme et propose un recours accru aux bracelets électroniques pour vider les prisons.
Ce qu'on a un peu fait lors de la Covid, des mesures exceptionnelles où les gens à qui il reste 3 mois de prison, eh bien, il faut les sortir de prison. On ne parle pas de tous les crimes, etc. On est bien. Mais et pour la personne détenue, c'est un challenge. Être incarcéré à domicile, pour des petites peines, c'est plus dur que de l'être en prison. Parce que vous avez envie de sortir.
Dans certaines prisons, le taux d'occupation atteint les 245%. Les maisons d'arrêt qui accueillent les détenus qui ne sont pas condamnés définitivement sont les plus touchées par la surpopulation carcérale.
Nouveau coup dur pour les habitués de l'autoroute A13. De nouvelles micro-fissures ont été repérées vendredi. L'autoroute ne pourra donc pas rouvrir le 1er mai comme prévu initialement. Depuis la formation mi-avril d'une fissure au niveau de Saint-Cloud, les voies de circulation restent fermées entre Vaucresson et Paris. C'est un rassemblement évangélique très surveillé dans le Loiret. L'association Vie et Lumière, une mission évangélique des gens du voyage, organise donc un rassemblement d'une semaine sur un terrain vague. Et cette année, pour la première fois, l'État a instauré des règles face à une situation qualifiée d'ingérable par les habitants. Les précisions de Noémie Schulz.
Dernier, plus de 40 000 personnes avaient participé au rassemblement qui avait totalement échappé au contrôle des organisateurs, mais aussi des autorités. Conséquences, des branchements sauvages sur les réseaux d'eau et d'électricité, des déjections retrouvées sur des chemins dans des espaces verts. Un drame avait même été évité avec l'arrestation d'un octogénaire qui avait tiré en l'air, excédé de voir des gens du voyage pénétrer sur son terrain privé pour y faire leurs besoins. Cette année, l'association évangélique a donc signé une convention pour tenir compte des désagréments et tensions de l'année dernière. Elle s'est engagée à ce que les choses se passent mieux en fixant d'abord une jauge à 27 000 participants. Elle a fait installer des sanitaires. Elle doit prendre en charge le financement du poste médical avancé qui sera ouvert 24 heures sur 24 pendant toute la durée du rassemblement. Financement également des frais relatifs au traitement des ordures ménagères. Les autorités, elles, de leur côté, se sont engagées à renforcer la présence des forces de l'ordre avec le déploiement de 400 gendarmes pour assurer la sécurité pendant le rassemblement. La préfète de la région Centre-Val-de-Loire a rappelé que l'abandon de déjections, les vols d'eau et d'électricité, les stationnements illégaux, toutes les infractions feraient l'objet de verbalisation.
À la campagne, les déserts médicaux concernent aussi les vétérinaires. Le suivi du bétail est plus physique et bien moins rentable. La pénurie touche toute la France et les jeunes se tournent de moins en moins vers les zones rurales. Un sujet de Corentin Briot.
Romain Deloncle est vétérinaire et c'est sa dernière consultation dans son cabinet. Mais la journée est loin d'être terminée.
Et donc là, on part sur un éleveur qui est assez loin, donc on va mettre la moitié de l'après-midi là-bas.
Les vétérinaires, une profession qui se fait de plus en plus rare dans les secteurs ruraux. Car en plus de leur consultation pour les animaux domestiques, leur rôle est crucial auprès des agriculteurs pour le suivi sanitaire du bétail. Et cette pénurie inquiète ceux pour qui leur présence est primordiale.
Quand on a un véto qui est à une heure de route, c'est quand même très compliqué de faire venir un véto dans la nuit. Et voilà, donc on privilégie aussi les races en fonction de la distance du véto.
Un aspect de la profession plus physique et moins rentable, avec notamment un temps de transport non comptabilisé. En 2023, seulement un peu plus de 15% des vétérinaires se consacraient à l'activité rurale.
Il faut que le territoire il devienne attractif, je pense, et qu'il offre tous les services de la ville à la campagne presque.
Des professionnels débordés qui tiennent tout de même à cette relation privilégiée avec les éleveurs, mais qui veulent des solutions pour continuer à exercer leur profession de la meilleure manière possible.
30 ans après le retour du loup en France, le sujet divise toujours. Sa population dépasse désormais le millier de bêtes. Elle a plus que doublé ces 5 dernières années. Un nouveau plan loup vient d'entrer en vigueur, mais les tensions restent vives entre les éleveurs et ceux qui pensent que la coexistence avec cet animal sauvage protégé reste possible. Corentin Briot.
Pour le moment, tout se passe encore calmement au sein de l'élevage de brebis de Sylvain. Mais dans quelques semaines, la menace devrait refaire surface.
Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on les a en permanence. Par exemple, là, cette année, rien que sur le mois de février, j'ai fait 60 vidéos de loups. Je prends plus de loups que de chevreuils, de sangliers, de safréuniers.
L'éleveur dit avoir compilé des milliers de vidéos de loups, récupérées grâce à ses boîtiers automatiques disséminés autour de ses brebis. Alors que le début des estives approche, période où les bêtes prendront le chemin des montagnes, elles seront davantage exposées aux attaques de loups. Une menace redoutée par les éleveurs et les bergers. Et chaque année, le bilan des pertes s'alourdit.
Là, cette année, on a vraiment franchi un cap. On a perdu 20% du troupeau. Soit une cinquantaine de bêtes.
Un discours qui varie également selon les éleveurs.
Bon, on en parle beaucoup du loup, mais on le voit pas souvent. Hein.
Regardez le grillage déjà.
Certains se disent mieux préparés.
Ça fait 20 ans bon poids qu'on a ça, et il n'y a aucune prédation. Quoi. Bon, maintenant le risque zéro n'existe pas, hein. Ça je suis bien d'accord avec tout le monde.
Vivre avec les loups, un souhait impossible, c'est pourtant l'idée que tentent de faire passer certains.
En France, on a une position anti-loup, comme ce qui s'est passé avec la bête du Gévaudan et comme un animal dangereux, alors qu'il y a d'autres pays, je citerai donc que l'Espagne et l'Italie, où le loup est vu plutôt comme une bénédiction que comme un fléau, même en Roumanie ou en Slovénie, où le tourisme est organisé autour du loup, sans que ça pose de problème pour les populations.
Mi-avril, un loup a été abattu dans la région. Le deuxième depuis le début de l'année et le 27e en France.
Ne bougez pas, tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Le sacre du Paris Saint-Germain est retardé en Ligue 1. Match nul ce samedi soir, 3 partout au Parc des Princes face au Havre. Les visiteurs ouvrent le score par Opéry. 10 minutes plus tard, Barcola égalise pour le PSG. Et juste avant la mi-temps, André Ayou, l'ancien Marseillais, donne l'avantage au Havre. Au retour des vestiaires, Touré transforme un pénalty, 3-1 pour les visiteurs. 78e minute, c'est Hakimi qui réduit l'écart. Et en fin de match, dans le temps additionnel, c'est Ramos qui égalise. Prochain rendez-vous pour les Parisiens, ce sera face à Dortmund mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions. On écoute la réaction de Warren Zaïre-Emery, c'était juste après la rencontre.
C'est sûr que ça n'a pas été un match facile. On a eu du mal à faire bouger le bloc adverse et créer des occasions. Maintenant, on reste quand même leader du championnat et on va attendre le résultat de Monaco pour voir si on est champion.
Et on enchaîne avec du football anglais et la Premier League. Liverpool a sûrement dit adieu au titre. Les Reds ont concédé le match nul, 2-2. C'était ce samedi sur la pelouse de West Ham. Les hommes de Jurgen Klopp pointent désormais à 2 points d'Arsenal qui a un match en retard. Et 1 point de Manchester City qui a 2 matchs de moins. Le résumé de cette rencontre est signé Raphaël Redon.
Si leur rêve de sacre s'est sans doute évaporé mercredi, un mince espoir demeure. Et pour l'entretenir encore un peu, les Reds doivent l'emporter au London Stadium. Début de rencontre ouvert, Liverpool domine, mais manque de réussite. À l'image d'un Luis Diaz remuant et malheureux, lui qui avait déjà touché le poteau contre Everton 3 jours plus tôt. Largement dominé, les Hammers réagissent en fin de première période. Alisson retarde l'échéance face à Bowen, mais ne peut rien sur le corner qui suit.
C'est joué vite avec Alisson, cette fois totalement impuissant. La tête de Jarrod Bowen pour permettre à West Ham de prendre l'avantage.
Dos au mur, les Reds rebondissent dès le retour des vestiaires.
Robertson, la frappe, Andrew Robertson qui relance Liverpool.
La révolte est sonnée et le gros temps fort des hommes de Klopp à nouveau récompensé.
Deuxième poteau, Gakpo est contre son camp. Liverpool est encore en vie. Le cœur des Reds, pas encore.
En 20 minutes, Liverpool renverse tout, mais peine à faire le break. La faute notamment à Areola, décisif pour son retour de blessure. Un manque de réalisme sanctionné par West Ham.
Ce sang envers Antonio. Et but de Michael Antonio. C'est terrible.
Klopp et ses hommes rattrapés et incapables de reprendre la main dans une fin de match sous tension. À l'image de cette séquence entre l'entraîneur et Salah au moment de l'entrée en jeu de l'Égyptien. De partout, les Reds quittent Londres avec des regrets et surtout un rêve brisé. Cette fois, ils ont sans doute définitivement dit adieu au titre.
Et on termine ce journal des sports avec de la MotoGP et la course sprint du Grand Prix d'Espagne. Podium surprise pour le français Fabio Quartararo après un scénario complètement fou. Le récit de cette course avec Thibaut Duclos.
10 ans qu'il n'avait plus été en pole ici, 5 ans qu'il n'y a plus gagné, 4 ans qu'il y a chuté, le début des galères. Marc Marquez et Reres, nouvelle couleur, nouveau départ.
Parti depuis la pole position, Marc Marquez qui va un peu traverser la piste, il est bien parti mais c'est Brad Binder qui a fait un départ canon et qui va se placer en tête alors que Rory Martin prend la deuxième position.
Départ raté, Marquez repris par Binder et surtout Rory Martin qui prend la tête en suivant. C'est serré à l'avant un peu trop.
Martin en a bien profité et derrière, oh, oh, la chute, eh oui. La chute de Francesco Bagnaia qui allait au contact avec son copain, oui. La BR46 Academy, Marco Bezzecchi.
C'est le début de plusieurs minutes de folie, Marquez rattrape Martin et l'attaque.
Eh oui, eh bien oui, il y va directement, voilà. Martin est surpris et doit relever sa machine, Marc Marquez est en tête de la course sprint.
Mais l'Espagnol est poussé à la faute en suivant.
Oh non, la chute, oh. La chute de Marc Marquez, c'est quoi ce tour, c'est...
Un Espagnol à terre, un autre en suivant, Vinales quitte la course. Si Martin est désormais seul devant, une autre histoire s'écrit en même temps. Fabio Quartararo, parti 23e, le plus bas de sa carrière en MotoGP, se retrouve 3e devant la légende Dani Pedrosa et Johan Zarco pour un excellent résultat tricolore. Mais le pilote Honda tombe à son tour. Martin s'impose et consolide fortement son leadership au championnat devant Pedro Acosta et Fabio Quartararo, rayon de soleil inattendu en Espagne.
C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition et on reviendra notamment sur la réaction de Gabriel Attal après la manifestation pro-palestinienne de vendredi à Sciences Po Paris. Il n'y aura jamais de droit au blocage dans les universités. Ce sont les mots du Premier ministre. Bonne nuit sur CNews.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.